l'étude du Sermon sur la montagne par le pasteur Alain Ouvrard. Loi, meurtre, adultère.
Je vous invite à reprendre l'évangile de Matthieu. Et puis on va lire à partir du verset 17 du chapitre 5. Alors Matthieu chapitre 5 verset 17, où il est question de la loi. Quelle relation avons-nous avec la loi de Dieu? Comment Christ la présente? Comment devons-nous l'appréhender? Comment devons-nous la vivre? Alors, Jésus nous dit simplement, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voilà, à travers ces quelques versets, Jésus, dès l'abord, lève toute méprise concernant la position relative à la loi. Il affirme, « Il n'est pas venu pour renverser les barrières embarrassantes de la loi, ni supprimer toute règle ou toute discipline. » Ce n'est pas du tout ce qu'il est venu faire, il l'affirme, il le dit. Mais en l'accomplissant lui-même, et il était le seul à pouvoir l'accomplir, parce qu'il s'y est soumis entièrement, alors il permet par son exemple, tout simplement, il nous permet à nous en tant que chrétiens de la vivre, cette loi, d'y obéir dans un esprit qui n'est ni la peur, ni la servitude, mais l'amour. Et ça, il faut que ça soit dit dès le départ, parce que trop souvent, dans l'approche religieuse que l'on a de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, et autant qu'on puisse s'en souvenir nous-mêmes dans une éducation qui était la nôtre, on a souvent brandi le châtiment, la peur, le jugement, pour nous faire obéir. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le contexte et c'est pas du tout l'explication que Jésus nous donne. Mais tout simplement parce que lui-même l'a accompli à notre place. Alors à ce moment-là, en suivant et en puisant en lui tout ce qui nous est nécessaire, il nous donne la force de la vivre. Voilà, tout simplement. La grande leçon que Jésus donne ici est la suivante. C'est que, puisqu'il est une question d'amour, c'est que Dieu a créé à l'homme un cœur. Et c'est tout à fait autre chose que la raison, que notre âme qui peut aller dans un sens ou un autre en fonction des émotions, en fonction du bien ou du mal. Mais il a créé un cœur, et le cœur que Dieu a créé, il est fait pour aimer. Ça, c'est tout à fait compréhensible. D'abord, aimer Dieu premièrement et sa parole, donc sa pensée, l'expression de sa pensée, de sa volonté. Puis, en conséquence de quoi, si nous aimons le Seigneur, aimer notre prochain. C'est une suite tout à fait logique. Et peut-être Jésus voudrait nous dire que le secret du bonheur véritable réside dans cette intelligence, parce que c'est aussi une intelligence. C'est une intelligence aimante qui fait que lorsque quelqu'un suit ses recommandations avisées, parce que Dieu nous a donné des paroles qui sont propres finalement pour notre bien et notre bonheur, pour notre paix, nous assurer la joie également. Alors, lorsque l'on suit ces recommandations, eh bien, l'obéissance à ce moment-là devient facile et joyeuse. C'est vrai que quand on suit quelqu'un que l'on aime, c'est tout à fait différent de suivre quelqu'un qu'on n'aime pas, ou auquel on obéit parce qu'il faut obéir, et que bah, on le fait à contre notre volonté, par-delà finalement eh bien, ce que nous aimerions certainement faire et que nous sommes obligés de faire, tout simplement. Donc, cette obéissance en suivant Jésus, mais qui vient du cœur, alors nous amène tout simplement à découvrir qu'il y a une joie, qu'il y a quelque chose de simple et de facile, tant est vrai qu'aimer transcende toute difficulté. Et c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à obéir à certaines personnes parce que bon, ben, c'est juste à la limite, hein, on n'aime pas. Hein. Alors que quand nous avons de l'affection, on est prêt à faire n'importe quoi pour la personne que l'on aime, hein, parce qu'elle prend toute notre place dans notre cœur. Et qu'à ce moment-là, même des choses que nous n'aurions pas fait pour une autre, eh bien, nous allons les accomplir parce que c'est Jésus, parce que c'est Dieu. Alors, naturellement, dans ce cadre-là apparaît la vraie valeur, on peut dire la vraie beauté, le vrai sens de cette volonté divine, parce que c'est fait dans l'amour. Et je crois que tout ce que nous pouvons apprendre dans une vie de chrétien, à travers la méditation de la parole, des textes, des prédications, de ce que le Saint-Esprit met au fond de nous-mêmes, tend justement à développer eh bien, l'amour, tout simplement. Et cet amour va nous donner de triompher. Hein, de triompher de ce qui, quelquefois, eh bien, pourrait devenir véritablement très difficile. Le problème réside surtout dans le choix que chacun fait. Et nous avons tous notre libre arbitre, compte tenu de la connaissance que nous avons de cette volonté. Alors vous savez que hein, on sera jugé en fonction de ce que nous connaissons. Et c'est logique, hein, quelque part. Et certainement que, bon, il y aura des gens qui auront une toute petite connaissance de la volonté de Dieu, mais qui auront mis en pratique. Et je crois qu'avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils possèdent, avec ce qu'ils détiennent, eh bien, vont peut-être aller plus loin que ceux qui en connaissent beaucoup, mais qui, quelque part, eh bien, passent outre. Donc, cela, eh bien, donc, est à considérer, compte tenu de cette connaissance que nous en avons, mais du péché toujours présent partout, et qui altère le cœur et la raison, et qui nous met devant le choix d'obéir ou non. C'est ça la question. Alors il y a derrière naturellement le péché, il y a le diable. Lui, il est toujours là, présent, et en fonction de ce que je sais de la volonté de Dieu, de l'amour qu'il a répandu par le Saint-Esprit dans mon cœur, c'est la seule force dont j'ai besoin. Je ne peux pas faire autre chose, parce que le reste serait certainement inadéquat. Et naturellement, en raison de ces paramètres d'opposition, je parle du diable, je parle du péché, de ma propre nature à moi-même, eh bien, c'est ce choix qui est toujours le même. Au départ, dans le jardin d'Éden, c'était un choix. Et toute notre vie, nous aurons des choix à faire, le choix d'obéir, ou tout simplement son contraire. Faire la volonté de Dieu, ou notre propre volonté. Et c'est un dilemme permanent. Parce que bon, hein, on n'est pas dégagé finalement de cette nature. Et il faut toujours réaffirmer les choses. Alors il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de lassitude, des moments de découragement. Et ça joue dans tout cela. Et je sais que le péché joue aussi dans cette dimension, l'adversaire également. Alors, la question pourrait se résumer de cette manière, puisqu'il s'agit de cette loi. Qui aime-t-on ou qu'aime-t-on le plus? C'est la question que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce qui a la priorité, qu'est-ce qui a la prééminence dans ma vie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ma volonté? Et c'est tout un travail que le Seigneur a entrepris depuis le début. Hein. Et je crois qu'un homme nu, un homme mûr, c'est de savoir choisir, c'est ce que nous dit le livre des Hébreux, entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un signe de maturité. Alors, c'est vrai qu'on y arrive. Dans certains domaines, on y arrive plus facilement que d'autres. Il y a parfois des faiblesses plus résistantes, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, bien, ça sera finalement le travail du Saint-Esprit. Qui aime-t-on le plus? Je crois que quand la loi déclare, parce qu'elle le déclare, « Tu aimeras, ainsi tout est dit. » Quand la loi de Dieu nous dit « mais tu aimeras », eh bien, finalement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Parce qu'à partir du moment où nous aimons, et peut-être la priorité des priorités dans une prière que nous avons adressée à Dieu, ce n'est pas tant « aide-moi à faire ta volonté », ça on le demande, mais « aide-moi à t'aimer au point que je puisse faire ta volonté simplement, joyeusement et véritablement dans un élan qui me pousse vers toi. Aide-moi à aimer ou à t'aimer, Seigneur, suffisamment. » Jésus le rappellera dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il dira ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. » Et quand il s'agit de la loi de Dieu, qui semble toujours assez sévère, rébarbatif et forte, eh bien il y a la notion d'amour qui vient en premier. Et peut-être qu'on n'a pas su certainement l'enseigner dans son sens prioritaire. Toutes les religions ont fait des lois, se servant de la loi biblique, de la loi, finalement, de la parole de Dieu, mais en ôtant l'essence même de son caractère profond, c'est-à-dire l'amour. Parce que sans amour, on n'y arrive pas. Je dis bien que sans amour, on n'y arrivera jamais. C'est vrai pour l'obéissance à la loi, comme nous le voyons ce soir, mais c'est vrai dans un mariage. C'est vrai dans un service. C'est vrai dans n'importe quoi, c'est l'amour qui est à la base. Et quand Jésus rappelle les textes de l'Ancien Testament, puisque ça c'est vraiment le livre de la loi, il dira « tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Voilà. En passant par le cœur, ton âme, ta pensée, et en disant « mais c'est là le premier de tous les commandements ». Vous avez remarqué avec moi, il nous est dit « car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota » ou un seul trait de lettre, jusque ce que tout soit arrivé. Ciel et terre, Jésus nous le rappelle, iota ou trait de lettre, tant qu'ils subsisteront, le ciel et la terre. Ce qui veut dire, c'est que le plus insignifiant élément est important parce que la loi divine est une unité en opposition au système religieux qui établissent une échelle de valeur. Nous avons tous eu une éducation avant d'avoir une éducation évangélique. Une éducation religieuse, je pense. Plus ou moins. Eh bien, quand on fait la comparaison, enfin moi autant que je puisse m'en souvenir, c'était véritablement les choses établies, à tel point qu'il y avait véritablement la sanction bien en évidence, péché mortel, péché véniel, enfin, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'était quand même ce qu'on nous a inculqué, et quand on inculque ça à des enfants, je peux vous dire que ça vous tient très très longtemps. Hein. Alors je suppose que dans d'autres religions, eh bien il y a aussi cette notion d'échelle de valeur. Alors que la loi, et Jésus le signale bien, il dit, mais pas un trait de lettre, parce que la loi de Dieu, eh bien, je l'ai souligné il y a un instant, c'est une unité. Il n'y a pas à dire, eh bien voilà, on va faire ceci, on va faire cela, non, c'est parce que c'est clair. Et la parole nous le dit, la transgression d'un équivaut à la transgression de tous. Donc, il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Et là, je crois que l'homme, et c'est ce qui amène justement le salut de Dieu sur l'humanité, c'est que nous sommes devant une impossibilité humaine. C'est impossible humainement. Donc, on a parlé de l'amour, qui seul nous rend capable. Mais si nous voulons le faire par nos propres forces et nos propres moyens, il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui fait, excusez-moi l'expression, mais c'était quand même un mot approprié, ce qui a fait l'effarement de l'apôtre Paul lorsqu'il s'est écrié de cette manière dans Romains chapitre 7 verset 24 « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort ?» ou du corps de cette mort. Parce que lui-même, il savait de quoi il parlait, c'était un juif, hein, élevé probablement dans le rigorisme le plus absolu, et il s'est essayé certainement à vivre, et il le faisait certainement parce que bon, il voulait faire la volonté de Dieu. Mais il écrit quand même « misérable que je suis ». Mais justement, c'est cette misère-là dont nous devons prendre conscience qui nous amène à dire « eh bien, je ne peux rien par moi-même, mais c'est toi, Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur ». Donc, c'est une aspiration profonde au salut de Dieu, parce qu'on n'y arrive pas soi-même. Et quand je vois qu'il y a des millions, hein, et c'est encore, je suis en dessous de la norme, des gens qui essaient par eux-mêmes d'atteindre et de pouvoir gagner leur ciel en faisant, eh bien, ce qu'ils croient certainement de bonne foi, mais c'est dans la fausseté. Enfin, quelque part, ils sont pas dans la réalité de ce que Dieu veut. Alors, à ce moment-là, on se dit, mais combien les gens ont besoin de revenir à l'Évangile, hein? Et je dis que nous tournons, parce que moi, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était une loi d'amour aussi. Mais elle prend tout son rayonnement et toute sa puissance dans le Nouveau Testament. Donc, en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous devrions être au clair par rapport à cette situation. Cependant, la réponse à l'insuffisance et au désespoir humain devant la loi trouve sa place dans cette parole, et c'est Jacques qui nous le dit, qui nous le rappelle, au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente », et j'aime bien ce terme, « toute grâce excellente », parce que c'est une grâce. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre mérite, nos qualités d'homme ou d'une manière ou d'une autre, mais toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment susceptible de nous réjouir profondément devant, eh bien, toute notre nature, impossible, et devant le mur qui nous fait, auquel nous avons à faire face, cette montagne à gravir et qui est infranchissable, sans véritablement, eh bien, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il nous est dit, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu a mis la loi, Dieu l'a donnée, et nous savons que Paul le dit, elle est juste, elle est sainte, elle est parfaite, cette loi. Mais quel homme peut l'accomplir? Et Jésus est en train de reposer les choses, il est en train de remettre les choses, il a dit, mais je ne suis pas venu l'abolir, je ne suis pas venu pour la rayer de la carte, je suis venu pour l'accomplir à votre place. Et on sait que ça nous ramène à Golgotha et à la croix. Parce que s'il n'y avait pas eu Jésus, il n'y aurait pas de salut, ça c'est certain. Mais ce que je comprends difficilement, c'est que dans un monde qui se veut chrétien, je parle de la chrétienté en général, on n'ait pas compris ça. Et que les religions continuent à fonctionner avec cet mécanisme de broyer les hommes en disant « mais vous allez y arriver et vous allez ceci et cela », alors que on n'est pas du tout sur le même terrain. Ce qui nous ramène que Christ, dans son obéissance parfaite à la volonté de Dieu, parce qu'il était le seul à pouvoir l'accomplir, notamment sa justice à la croix, a levé par sa mort expiatoire ce qui nous condamnait selon la loi et désormais nous sauve par sa grâce, à la condition, tout simplement, que je le crois. Donc on a changé de régime. La loi va être accomplie par Jésus dans la mesure où je crois que Jésus l'accomplit à ma place. Et ça s'appelle tout simplement de la substitution. Il a pris ma place. Et c'est la foi qui me sauve aujourd'hui. Et à chaque fois que je me confronte à la loi, elle parle à ma conscience, le Saint-Esprit est là pour me le dire. Alors à ce moment-là, soit je veux me heurter à ce qui va me détruire à un moment ou à un autre, hein, parce que le péché, il n'y a rien à faire. Mais à ce moment-là, je saisis. Et je dis, Seigneur, eh bien oui, moi je veux me souvenir de ce que tu as accompli pour moi. Et ce n'est pas à moi d'essayer de faire les choses, puisque les dernières paroles sublimes de la croix, c'est quand même, tout est accompli, et on doit s'en souvenir. Et là, à ce moment-là, eh bien, je me rattache, et je me raccroche, et je saisis par la foi le salut que Jésus m'a donné. Et tout va changer par la suite. Tout va changer dans mon approche. Dans Romains, il nous est dit ceci, c'est aussi une parole très forte de l'Évangile, au chapitre 8, verset 1er. Il est dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je suis en Jésus. Et je suis dans la volonté de Dieu en Jésus-Christ, par la foi, tout simplement. Ce qui a pour conséquence heureuse et libératoire, parce que je suis libre après. C'est pour ça qu'il y a une liberté, un affranchissement. Parce que ce n'est plus l'effort, ce n'est ni le mérite ou la souffrance de mes propres forces pour accomplir la volonté de Dieu, mais c'est la foi en celui qui a fait en lieu et place pour moi ce que le péché m'empêchait de faire, et qu'il m'empêchera toujours de faire. Et là, à ce moment-là, confronté avec ma misère, avec mon indigence, avec mon impuissance, avec mon incapacité, eh bien je me réfugie en Jésus-Christ. Et c'est lui qui, par son esprit, par son amour en moi, va me rendre capable d'accomplir. C'est peut-être contre ma nature humaine, mais on y arrive, et on va y arriver. Comme Paul le disait, on l'a entendu ce soir, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un espoir, c'est quelque chose de formidable. L'homme est libre à ce moment-là. Il est libéré, il respire, il est affranchi. Vous avez remarqué avec moi au verset 20, parce qu'il est dit ceci, « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Il est question de justice. La loi, c'est la justice. C'est normal, ça va ensemble. Hein. S'il y a deux mots qui sont alliés, complémentaires, qui vont ensemble, c'est loi et justice. On le voit bien dans ce qui est de notre humanité. Alors il le dit, Jésus. Mais si votre justice, cette justice de vouloir faire soi-même, de vouloir atteindre soi-même, alors à ce moment-là, si ça ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, pourquoi Jésus prend-il en exemple ces gens? Parce que c'est une condition à dépasser. Comme la condition est à dépasser de tout ce que l'on peut considérer d'hommes et de femmes, peut-être de bonne volonté, de bonne foi, mais religieux, mais pas spirituel. Voilà. Parce que des gens religieux, il y en a. Et Jésus les montre en exemple, en quelque sorte. Il était venu pour les sauver, mais il ne voulait pas être sauvé. Ça, c'est une autre affaire. Condition à dépasser, parce que les scribes et les pharisiens se donnaient en exemple. Et non seulement ils se donnaient en exemple, mais ils imposaient leur exemple aux autres, en disant, mais aïe. Hein, Jésus va faire un réquisitoire extrêmement rigoureux, vigoureux et sévère dans Matthieu chapitre 23. Si vous lisez, vous verrez. Hein, un chapitre entier. Hein. Malheur à vous, et c'est pas des bonheurs, hein, c'est le contraire des béatitudes que nous avons vues dernièrement. C'est malheur, hein, 8 fois. Parce que ils avaient la prétention de dire, eh bien voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de viscéral au fond du cœur humain de vouloir finalement contraindre les autres. Alors que nous avons vu tout à l'heure au début de cette loi confirmée que ce n'est pas la contrainte, c'est l'amour. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de désaffection dans notre monde. Des gens qui nous disent « mais ne me parlez pas de Dieu hein. ». Il y en a qui s'en souviennent, hein, l'éducation qu'ils ont reçue. Et puis de voir le comportement et de voir toutes l'hypocrisie et toutes sortes de choses. Ils se disent « mais ne me parlez pas de Dieu, parce que si Dieu est comme ça, c'est pas possible. Hein. N'allez pas me faire croire que Dieu existe. » Comprends qu'il y a cette réjection de notre monde. Mais à cause de quoi? À cause de ça, parce que ils se donnaient en exemple prétentieusement, et ils étaient des observateurs scrupuleux de la loi, c'est-à-dire la lettre qui tue, mais ils n'avaient pas compris que la loi, quand elle est vivifiée par l'Esprit de Dieu, c'est autre chose dont nous parlons, parce qu'ils observaient une loi traditionnelle, rituelle, religieuse, en oubliant tout simplement son sens profond et spirituel, et c'est ce que Jésus a enseigné. Jésus n'est pas, et c'est une dernière pensée sur la loi confirmée, donc de ce petit paragraphe de 17 à 20, Jésus n'est pas venu abaisser la loi au niveau de l'homme, mais il est venu élever l'homme à la hauteur de la foi. Nuance. Parce que si on avait pu s'élever à la hauteur de la loi, ça serait fait. Et c'est impossible. Mais par contre, lui, il est venu avec un enseignement qui est l'enseignement du royaume de Dieu, l'enseignement de la foi. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il a élevé l'homme. Jésus n'est pas venu ouvrir le ciel aux pécheurs seulement, mieux. Il est venu mettre le ciel dans leur cœur en faisant d'eux des hommes qui ont appris à aimer pour pouvoir obéir librement. Tout simplement. Et c'est ça le miracle. De cette transformation intérieure. Parce que quand il est venu nous chercher, c'est que la première leçon qu'il veut que nous apprenions, que nous gardions et que nous vivions pleinement, c'est une leçon d'amour pour pouvoir obéir librement et non pas par contrainte. Et ça change tout. Tout est transfiguré à ce moment-là. C'est ce que l'on peut dire en deux mots de ce petit paragraphe. On continue. On va parler du meurtre. Alors, c'est un sujet. Hein. Alors, on va lire versets 21 à 26. Il est dit ceci. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras de là que tu n'aies payé le dernier quadran. Voilà. Jésus aborde un autre sujet. Pour nous dire, simplement, que la vie est un don de Dieu et que Jésus, dans ce chapitre, aborde la question du meurtre. Et qu'est-ce que c'est qu'un meurtre ? C'est faire mourir ou donner la mort à autrui. Ce geste, Jésus nous le présente comme un geste dramatique qui a pour origine directe la séparation de la créature d'avec son créateur. Parce que ça ne tarde pas après la création. Et on voit la conséquence. Événement relaté dans la tragédie de la chute, c'est le premier acte criminel, conséquence quasi immédiate de l'effondrement moral et spirituel de l'homme au sortir du jardin d'Éden. L'acte de tuer a ses racines plus profondes qui dévoilent l'état intérieur du meurtrier. C'est pour ça que Jésus dira, mais vous avez entendu dire, oui, vous l'avez entendu dire par les anciens, mais moi je vous dis. Et quand Jésus dit ça, c'est qu'il va beaucoup plus loin que l'apparence. Et quand il va plus loin que l'apparence, qu'est-ce qu'il voit ? Par-delà le geste, par-delà la main meurtrière, la main ensanglantée, il voit la haine dans le cœur, il voit la jalousie, il voit la convoitise, il voit l'orgueil, il voit l'égoïsme, il voit la frustration, il voit tout ce que l'on peut appeler péché, et qui amène à ce résultat. Dès lors, cette séparation de la créature avec son créateur, et depuis Caïn, la terre des hommes n'a jamais cessé d'être arrosée par une pluie, voire des flots de sang, soit à l'échelle d'actes individuels ou collectifs que l'on appelle des guerres. Et l'homme ne sait faire que ça. Et on le voit. Si le sang ne coule pas, fort heureusement peut-être dans notre pays, en tous les cas, ce qui anime souvent au niveau du commerce, de la politique, de tout ce que vous voudrez, la haine, la jalousie, etc., etc. Et ça peut dégénérer justement à ce que Jésus est en train de stigmatiser, c'est-à-dire aller jusqu'au crime ou au meurtre. Dans le verset 21, on l'a lu, le mot meurtre vient de l'ancien français « meurtrir ». Et Jésus dit, tu ne tueras pas. L'infraction à ce commandement expose au jugement. Celui d'abord du tribunal, ou des tribunaux humains, et ensuite au tribunal de Dieu. On a bien dit tout à l'heure que la vie est un don de Dieu, et on ne touche pas impunément. Et c'est vrai que dans nos sociétés, comme nous les connaissons, il y a des lois qui protège la vie, et heureusement. Mais ça, c'est pas vrai partout. Où la vie, c'est, on en fait peu de cas. Alors, on peut bénir le Seigneur de vivre encore dans un pays où il y a des lois et un certain respect, où on essaie de faire respecter, finalement, eh bien, la vie. La vie est sacrée. Cependant, Jésus va jusqu'à la racine du fléau quand il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous le dis, donc, il va plus loin, Jésus en dénonce l'origine. Et l'origine, c'est ce que nous avons lu ensemble, la colère. La colère qui va être quelque part ce qui est la manifestation de la haine, de la jalousie. Elle va s'extérioriser, cette haine, cette convoitise ou cette jalousie, cet orgueil, on l'a dit tout à l'heure, cet égoïsme, par la colère. Jésus n'a pas pris un autre mot, c'est pas autre chose. Donc la colère qui est la source de toute folie meurtrière, et le péché est dans l'intention, la pensée et ensuite l'acte. Alors il y a quelquefois des homicides involontaires, alors on sait ce que c'est, mais quelquefois le meurtre, il est très médité, Et il y a des gens qui le gardent comme cela pendant très très longtemps à l'intérieur, et le jour où ils ont l'occasion, ils en ont l'opportunité, ils vont le faire. Mais moi je crois que derrière un acte ou un geste meurtrier, il y a aussi celui qui se cache, hein, le prince de la mort. Hein. Il est toujours là, lui. Hein. De toute manière, il est toujours là. Donc, Jésus nous parle bien de la pensée qui ensuite va entraîner l'acte. La disposition intérieure prélude à l'action extérieure, c'est-à-dire le passage à l'acte entraîné par une émotion mauvaise, une impulsion, une pulsion, quelque chose qui est très fort à l'intérieur, souvent passionnel et aussi souvent aveugle. Parce qu'une fois que les choses sont faites, combien d'aveux en disant « mais je ne voulais pas ». Mais oui, mais c'est fait quand même. C'est fait. La passion aussi. Hein. Parce que la passion, ça enlève la réflexion. Ça prive de l'intelligence, naturellement. Jésus est sans équivoque quand il désigne la colère. Elle-même alimente, et je le redis, et manifeste la haine. Laquelle haine confère la force pour détruire la vie. Parce que faut le faire quand même de tuer quelqu'un. C'est vrai, il y a quand même... Je sais pas, enfin bon, moi je vous dirais, j'ai jamais essayé, mais c'est vrai que faut une certaine force de dire je vais prendre sa vie. Quand on voit ce qu'il peut y avoir d'horrible dans la mort. Et ça donne une force. Et quelquefois, dans le meurtre, il y a certains crimes, on se dit, mais c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Jésus, c'est Jean qui dit ça, dans 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 15, il est dit ceci, « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Alors les insultes, les menaces prononcées, tout ce qui peut blesser l'âme, et que toutes ces choses aboutissent à la folie qui détruit le corps, capable d'enlever la vie à autrui, directement ou indirectement par le biais de la réponse donnée qu'on appelle la vengeance. Parce que derrière, il y a quand même quelque chose. On ne va pas voir son semblable en disant « je te tue, tiens, ça me fait plaisir ». Bon, enfin, il ne va peut-être pas se laisser faire, il aura raison. Hein. Non, mais il y a tout un cheminement derrière. La vengeance. Vous savez que Dieu avait en Israël, dans l'ancien Israël, avait prévu les villes de refuge. Hein. Parce que la vendetta, hein. ça existait à une certaine époque, hein. C'était terrible parce que c'était des familles entières qui y passaient, hein, pour un seul, terrible. Verset 22, alors, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement, que celui qui dira à son frère Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Raca. Donc, il mérite d'avoir la punition des hommes, le Sanhédrin, institué dans le contexte. Mais pire que le jugement des hommes, Jésus n'hésite pas à dire le feu de la Géhenne. Raca a pour sens vide, ou tête vide. Ouais, quelqu'un qui n'a rien dans le cerveau. C'est ça la signification. Hein. Tête vide. Quelqu'un qui est sans réflexion, sans cervelle, donc stupide. Voilà. Caïn, emporté par de mauvais sentiments à l'égard de son frère Abel, en est le pitoyable témoignage. Il voit quelque chose. Il convoite ce que fait son frère. Et vous avez remarqué que c'est quand même un acte cultuel. Ça devient encore beaucoup plus grave. Et le premier acte criminel a été autour d'un acte cultuel. Et qu'est-ce que l'on peut dire des guerres de religion, hein ? Faux, c'est affreux, hein ? Et tout ça au nom de Dieu. Et ça commençait comme cela. Et nous voyons qu'à l'origine de cette folie meurtrière, étonnamment, c'est un acte d'adoration qui aurait dû glorifier le Seigneur. Un acte d'adoration qui en est la cause et qui en dit long sur les sentiments humains, les sentiments religieux dévoyés. D'ailleurs, Jésus le dira à un moment donné dans Jean, il dira « Mais quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. » Et je peux vous dire que... Notre monde a été ensanglanté par des actes de cette nature. Je te tue parce que finalement c'est au nom de Dieu. On n'a peut-être pas tout vu, hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute un petit peu ce qui se passe autour de nous, vous avez des gens qui vont pas forcément y regarder de trop près, ils veulent gagner leur ciel, hein, mais pour que eux ils aillent au ciel, vous allez y passer. Hein. Enfin, on va y passer. Hein. Enfin, voilà. Non, mais c'est terrible. Hein. On comprend que c'est tête vide. Hein. Raka. Et puis, il y a le mot GN. Alors, vous connaissez certainement. Est formé de deux mots hébraïques qui signifient vallée de Himon, située non loin de Jérusalem, symbolisant un lieu de tourment. Alors, pour l'histoire. Son histoire sinistre de GN est due aux autels de sacrifice sur lesquels les rois de Juda immolaient leurs enfants aux idoles. Donc, c'était sacrifice abominable. Aussi, Jésus emploie-t-il ce nom pour désigner l'enfer. Et par extension, il émet un jugement beaucoup plus terrible que la mort physique. Le feu de la Géhenne correspond à la ruine éternelle. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit ceci, 1, verset 9, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ouais, quelque chose. Hein. Moi, je crois qu'il y a des meurtriers qui se repentent. Hein. Heureusement. Mais déjà, porter la haine dans son cœur, avoir du ressentiment, avoir quelque chose contre quelqu'un, c'est déjà les prémices. Hein. Le verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors tu laisses ton offrande devant l'autel, tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère, puis après tu viens présenter ton offrande. Hein. Et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus ne laisse aucune illusion à ceux qui seraient animés de ce type de sentiment, même s'ils se drapaient ou s'enveloppaient d'apparence de piété. Parce que c'est pas la piété qui... Quelquefois, elle ne sert qu'à masquer la réalité. Et ça, c'est d'une vaste hypocrisie. C'est pour ça que Jésus dévoile les choses. Quand on voit certains comportements religieux, je pense à cette pieuvre que l'on appelle la mafia. Et autant qu'on puisse en connaître, parce que c'est quand même quelque chose d'assez secret, mais autant ces gens qui sont quand même des hommes de meurtre et de crime, s'emparent finalement de l'aspect religieux, avec une vie apparente religieuse. Puis derrière, c'est terrible. Enfin, je parle de ça parce que c'est une réalité aussi de notre monde. Hein? Mais c'est terrible. Alors si tu as quelque chose, hein, ça ne sert à rien. Le verset 24, hein, nous l'avons lu, « Laisse ton offrande et va te réconcilier avec. » C'est-à-dire, c'est un devoir. C'est pas si tu en as l'occasion. Ou si ça te passe par la tête. Non, c'est un devoir. Donc, nécessité absolue que de se réconcilier avec son adversaire, mais cette démarche appelle une autre disposition tout aussi concrète, condition sine qua non pour la réussite de la sincère réconciliation avec Dieu, sans laquelle toute offrande, tout sacrifice, prière ou adoration, service, consécration est sans valeur, si la haine, si l'animosité, l'inimitié, le ressentiment occupent et remplissent notre cœur. Ah oui, ça ne sert à rien. Seigneur, je me présente devant toi, je prends la Sainte Cène, je fais ceci et cela, mais j'ai quelque chose contre mon frère, je ne lui pardonnerai pas. Ah, ça sert à quoi? Non mais vous hochez la tête, mais c'est vrai. On est d'accord, mais quelquefois ça s'est vu dans nos églises. Et c'est triste. C'est triste parce que bon, il faut absolument que les choses soient réglées. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas dire « je suis bien avec toi, Seigneur » et que j'ai quelque chose contre mon frère. Alors à ce moment-là, je vais arranger. Toute affaire conflictuelle non résolue est un obstacle à notre communion avec Dieu et qui plus est, toute offense à l'encontre de mon semblable, à défaut d'être réglée honnêtement, empoisonnera les relations et inévitablement d'autres qui généreront de nouveaux troubles, et c'est une histoire qui n'en finit pas, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut régler les problèmes, à un moment ou à un autre. Alors, il faut les régler intelligemment, il faut les régler dans le temps de Dieu, il faut les régler dans la prière, il faut être conduit par le Saint-Esprit, il faut prendre le temps nécessaire, parce que quand on va vers quelqu'un pour lui demander pardon ou recevoir son pardon, il faut que les deux parties soient d'accord. Si on arrive comme un chien dans un jeu de quilles en disant ben voilà, je veux que tu me pardonnes, et puis vous commencez à lui serrer le cou en disant je veux que tu me pardonnes, vous allez voir comment il va vous pardonner. Hein. Non, mais il y a des conditions. Donc c'est une question d'intelligence aussi. C'est pourquoi Jésus est impératif. Au verset 26, il dit « Mais tu ne sortiras de là que tu n'aies payé le dernier cadran », c'est-à-dire un quart de sou. Oh, qu'est-ce que c'est ? La valeur de quelques centimes, ça vaut rien du tout. Mais tu paieras jusqu'au bout. Tu ne t'en sortiras pas. Ce qui signifie qu'il faut aller jusqu'au bout de la résolution du problème relatif au pardon accordé à son prochain, afin de ne rien laisser à l'adversaire qui s'appelle, je vous le dis, le meurtrier, de ne lui laisser aucune rancune à exploiter, selon Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, la conclusion de ce paragraphe, c'est attention au tison qui semble éteint. On peut dire ça en conclusion. On va passer maintenant à la troisième partie. Alors oui, les questions. Donc, la convoitise, adultère, divorce est valeur de la parole donnée, et on lit de versets 27 à 37. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, ni pas parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, et ce qu'on y ajoute vient du mal. Voilà, troisième aspect des choses. Jésus évoque maintenant une autre transgression de la loi, l'adultère, qui vient du mot latin adulterare, qui veut dire corrompre, falsifier, altérer. C'est le viol de la loi conjugale pour ceux qui sont mariés. Parce qu'autrement, ceux qui ne sont pas mariés, c'est de l'impudicité, de la fornication. Viol de la loi conjugale. Confiance ou engagement trahi, trompé, violation du devoir de fidélité au mariage qui est la cause péremptoire au divorce et à la séparation. Et Jésus, vous remarquerez, laisse entendre un aspect, sauf cause d'infidélité. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Or, Jésus va une fois encore à la source. Et c'est toujours le même refrain avec Jésus. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, et Jésus spécifie une chose, c'est que le mal commence dans le regard, lequel alimente le cœur, que l'on appelle la convoitise. Et l'explication nous est donnée par Jacques, chapitre 1er et verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Jésus ? Si le regard est pur, le cœur l'est aussi et inversement. La problématique, parce qu'il y en a une, comment rester pur dans un monde imprégné de sollicitations malsaines ? Et plus que dans tous les temps, je crois qu'on est vraiment dans ce monde-là. Ça a toujours existé, hein ? Mais je crois qu'on est arrivé à une dimension certainement très, très forte. Jésus évoque l'excuse si fréquente, verset 29, quand il est dit, que je retrouve mon texte, alors oui, c'est ça, Voilà, je vais tourner la page un petit peu plus avant. Jésus, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et la même chose pour la main. Donc, l'excuse qui peut être invoquée, qui est fréquente chez les hommes, je n'y peux rien. C'est mon œil. C'est ceci, c'est cela, c'est ma main. Alors, la question se pose maintenant. Si nous voulons mettre les choses au summum de l'accomplissement de la loi, arracher son œil et couper la main. On est d'accord. Ça n'arrivera que 4 fois. Bah oui, ça ne pourra pas aller plus loin, à moins que les yeux repoussent et puis que les mains repoussent. Donc voilà, la question elle est là. Pour sauver une vie menacée, et c'est là justement où Jésus veut nous amener sur un terrain de réflexion, en matière de chirurgie, l'on procède à l'ablation complète, c'est-à-dire au sacrifice d'un membre. C'est comme ça que ça se passe, hein. Jésus donne à entendre aussi tout ce qu'il y a de tragique dans la lutte contre le péché. Et c'est une lutte. Et c'est une réalité. C'est pas une réalité comme ça une fois tous les 10 ans, hein. C'est quelque chose qui fait partie finalement de l'existence des hommes. Parce que les violences et les ivresses de l'existence poussent les hommes à perdre la raison et à se livrer aux pires folies. Alors bien sûr, il y a la nature, il y a le péché, il y a les faiblesses humaines, mais il y a aussi celui qui souffle là-dessus pour essayer d'enflammer. Ça, c'est clair. On ne perd jamais de vue tout cela. Sans dire que c'est toujours le diable qui c'est lui qui est le coupable, hein. Parce que bon, il fait avec nous ce qu'on lui laisse faire, finalement. Tout péché conduit à la perdition. Maintenant, je voudrais mettre une parenthèse. Il y a une différenciation à faire entre la chute et l'état. Des chutes, malheureusement, ça arrive. Mais l'état, c'est de dire, eh bien, je suis dans une situation de péché et je trouve que c'est bien, j'y reste. Ça, l'état. La différence. Mais des chutes, qui ne chute pas? Et c'est là où, justement, il faut véritablement avoir une bonne notion de la loi et de la compréhension, finalement, pour pouvoir aider. Quand il nous est dit, à un moment donné, c'est pas pour rien, Paul dit, mais reprenez avec douceur. Eh oui. Parce qu'il y a aussi toute une stratégie d'approche. Dans le fond, c'est vrai, mais dans la forme, il y a des choses à faire. Et là, nous avons vraiment besoin de la sagesse, de la grâce et de l'amour du Saint-Esprit. Parce qu'autrement, il n'y aurait plus personne dans les églises. Hein. C'est clair. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui préfèrent peut-être vivre leur vie ailleurs, parce qu'ils se disent, bon, c'est pas la solution, ça c'est sûr. C'est pourquoi le Seigneur est si exigeant, parce qu'il nous a dit que le salut est en jeu. Eh oui. Eh oui. C'est certain que si c'est l'État, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il n'y a qu'une repentance, hein, quoi qu'il en soit. Et même dans la chute, de toute façon, bien sûr. La créature humaine est un être sexué. Et c'est quelque chose de très fort. Je me permets de le dire. C'est quelque chose de très, très fort. Mais Dieu l'a voulu comme ça. Alors bien sûr, après le monde de péché, ça a pris des proportions certainement accentuées, mais c'est une faculté voulue du Dieu créateur, fixée dans un cadre que l'on appelle le mariage, et avec des limites morales. Bien sûr. On a vu quelquefois des mouvements religieux de dire, mais attention, hein, tout ce qui touchait à cette dimension-là, alors là, c'est quelque chose, c'est le péché des péchés. Mais, écoutez, hein, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme le boire et le manger, je me permets de le dire. Voilà, mais il y a un cadre. Et toute la question est là. La sexualité n'est pas que le corps. Ce n'est pas que l'éros. Pour une rencontre du couple dans l'amour, dont la finalité est le bonheur, l'épanouissement et l'accomplissement de l'un et de l'autre. C'est ça ce que Dieu a voulu donner. Avec quelqu'un qui partage notre vie, quelqu'un que nous avons choisi, quelqu'un qui nous a choisi, et dans lequel, eh bien, il y a un épanouissement. Et c'est voulu de Dieu, et c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. C'est tout ce qu'il y a tout autour qui n'est pas beau. Mais ça a été voulu de Dieu. À l'horizon, et c'est là justement qu'il y a quelque chose de formidable, de très beau, de magnifique et même de sublime. C'est qu'à l'horizon de tout cela, cette union prépare et rejoint une autre communion, cette fois spirituelle, c'est Christ et l'Église. Et là, il y a tout un enseignement à donner, on n'a pas le temps, hein. Mais quelque chose d'extraordinaire. Parce que finalement, la vie du couple, elle nous prépare aussi, pour de l'autre côté, hein. Mais dans une autre dimension, et bien ciblée. Christ et l'épouse. Dans Éphésiens, il est dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et il y a des choses qui sont vraiment très, très belles qui sont écrites. L'ennemi est passé maître dans la contrefaçon, la souillure, la dénaturation et le sujet touchant un besoin naturel et impérieux tel que le sujet que nous abordons, donc la sexualité, pas l'adultère mais la sexualité. Aussi s'emploie-t-il à éloigner l'homme de sa destination en exploitant ses faiblesses, la frustration et le vice. C'est pour ça que Jésus a donné ces choses, parce que ça existait, et ça a toujours existé. Et tant que l'homme sera sur la terre, ça existera malheureusement. C'est comme ça. Son levier d'action, c'est le cœur de l'homme, qui normalement doit agir en gouvernail. C'est-à-dire qu'il doit donner, le cœur de l'homme doit donner la direction. Je choisis, je vais dans ce sens-là. Les yeux étant les voiles, si je peux me permettre l'image, parce que les voiles elles s'orientent en fonction des gravures. Les yeux, c'est pareil, hein, naturellement, qui poussent de ci, de là, au gré de ce qui frappe le regard. Et c'est le phénomène de la tentation. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors ce sont des forces que nous pourrions appeler antagonistes, où seule la maîtrise de soi peut faire la différence. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Mais Jésus n'a pas encore tout dit. Parce que le principal arrive maintenant. Parce que confronté à cette loi, ça va être difficile. Le fruit de l'esprit. Alors la question, mais qui peut être assez fort? Je vais me faire arracher les yeux et je vais me faire couper les mains. C'est une possibilité. Et ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Pourtant, la tentation continue d'exercer son pouvoir. Tant que nous serons dans ce corps d'humiliation, ça continuera. Mais est-ce que c'est en touchant l'intégrité de notre corps qu'on va lui échapper? Puisque Jésus nous dit « coupe, enlève ». Non. Notre salut et délivrance viennent d'ailleurs. La seule façon de résoudre la question est de devenir une nouvelle créature. C'est la clé. Une créature régénérée, une créature transformée par l'action du Saint-Esprit en nous. Et croyez bien, ça ne se passe pas en une seconde. Je veux bien croire que certains sont venus dans des situations épouvantables de souillure et tout cela, et ça a marqué leur conversion. Mais on reste des hommes et des femmes. Et je crois que c'est tout un travail. C'est un travail de foi, c'est un travail de proximité avec le Seigneur, c'est un travail où nous pouvons demander, Seigneur, eh bien, donne-moi de t'aimer, là. On a besoin, vraiment, de sa force de l'amour. Se laisser discipliner, mourir à nous-mêmes, il ne s'agit pas de s'arc-bouter en réaction légaliste, mais dans le sentiment de notre faiblesse. Avec modestie et humilité, de s'abandonner à la grâce toute-puissante du Seigneur, seul vainqueur du péché et de la tentation qui le précède. De ce péché, entre autres, comme bien d'autres péchés. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul nous parle de l'homme nouveau, de régénération, de travail de l'Esprit en nous-mêmes. Quand on voit maintenant le verset 30 et 31, il était dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pose d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus conclut en disant que personne ne s'imagine pouvoir légitimer la répudiation exigée par la passion au moyen d'une lettre de divorce. Je t'ai choisi, mais je ne te veux plus maintenant. Terminé. On écrit une lettre, c'est fini. C'est ce qu'on appelle le divorce, naturellement. Celle-ci ne peut que sauver les apparences. Cependant, devant Dieu, le péché reste le péché avec toutes ses conséquences vérifiables, hélas, par la somme de souffrances qu'il occasionne. Et là, on ne peut pas dire que quelqu'un ne peut pas dire ou des familles ou des couples ne peuvent pas dire j'ai divorcé et j'y ai trouvé le bonheur en divorçant. Parce que si on y a trouvé peut-être, je ne sais quoi, en tous les cas s'il y a des enfants, demandez-leur s'ils sont heureux. C'est terrible. Hein? Et c'est le drame de notre société. Je parlais avec un professeur dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Il me disait, mais c'est plus de la moitié des classes où maintenant les enfants sont des enfants divorcés. Vous vous rendez compte de la société dans laquelle on est? Et quelle notion ils vont avoir, finalement, du mariage? D'ailleurs, de toute façon, ils ne veulent plus se marier. Hein? C'est terrible. Hein? Alors donc, c'est quand même sérieux tout cela. C'est même plus que sérieux. La suite s'enchaîne et elle est logique. C'est la valeur de la parole donnée à travers le verset 33, dont le but est la fidélité aux engagements décisifs que l'on prend, et entre autres l'engagement du mariage. Parce que ça fait partie du même contexte. Si vous lisez les choses, c'est la même histoire. Avec bien naturellement d'autres sujets qu'on peut y rajouter. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous le dis que de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marché, ni Jérusalem, etc. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un de tes cheveux, etc. Le parjure, attrait aux engagements trahis ou dénoncés, c'est une violation du serment. Et quand je dis que le mariage est un serment, c'est un serment. On a dit oui. On n'était pas obligé de dire oui. Hey, le jour du mariage, si on veut dire non, on peut dire non. Ah ben, c'est sûr qu'il va peut-être y avoir de l'étonnement. Mais personne n'a forcé en disant tu vas dire oui avec le... Non, mais voilà, c'est ça. Alors donc c'est une parole, c'est la valeur de la parole, la fidélité à la décision que nous avons prise. Violation du serment, le péché a entraîné dans son sinistre sillage des hommes à surfer sur le mensonge, dont l'inspirateur est toujours le même, c'est-à-dire le diable. « Vous avez pour Pierre le diable, dira Jésus dans Jean chapitre 8, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » D'abord, il est meurtrier, c'était le sujet d'avant. Hein. « Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. » Là, c'est le sujet du mensonge. « Parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et à partir du moment où on reprend notre parole, eh bien, on devient menteur. « La vérité étant pervertie, le monde, je dis bien le monde, que Dieu ne plaise que ça n'arrive aux chrétiens. Le monde a pris l'habitude de recourir aux serments et aux promesses solennelles en prenant à témoin leurs semblables ainsi que Dieu. Quand quelqu'un se marie devant une assistance religieuse, ben, devant monsieur le maire, etc., on a pris à témoin. Et quand on va dans une église, on prend un Dieu à témoin. Bon, chacun avec sa conception, naturellement. Et pour nous, ça revêt encore un caractère encore beaucoup plus fort, on peut dire. C'est qu'on a pris l'habitude de recourir à ces choses. Il faudrait mieux pas faire de serment du tout. C'est ce que Jésus veut nous dire. À ce moment-là, il faut mieux pas faire de serment. Ainsi, les paroles les plus sacrées, et on le voit depuis que le monde est monde, les paroles les plus sacrées ont fini par n'être que d'infâmes et vulgaires jurements. Jurements, je te jure que. Sans valeur, sans honneur, qu'on utilise à tout propos et hors de propos. Et dans Lévitique, chapitre 19 et au verset 12, il est dit « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » La conclusion de ce dernier chapitre, c'est celle-ci. Dans le monde nouveau qui vient, que nous attendons, on ne dira que la vérité. On est d'accord ? Le reste aura disparu. On ne dira que la vérité. Serments et autres déclarations solennelles n'auront plus de raison d'être. La confiance, le respect et l'amour seront la nature même de cette nouvelle dispensation. Alors on l'attend et que le Seigneur nous donne véritablement à travers ces quelques paroles. On aurait pu rentrer encore davantage dans le texte, hein, mais j'ai passé un petit peu en surface. Mais ça nous donne quand même une petite idée. La loi confirmée, le divorce, séparation, l'adultère, infraction à la parole donnée. Voilà ce que Jésus nous a enseigné. Et puis la prochaine fois, eh bien, il est question d'aimer ses ennemis. Là, c'est encore aussi un programme. Que Dieu nous bénisse. On va simplement terminer par la prière.